te présente. Donc on est, donc comme vous l'a dit, Johanna a organisé la séance et donc parle, intervient aussi. Donc comme on vous l'a aussi dit, Johanna a effectué ça, a soutenu sa thèse en décembre, en septembre dernier. Et donc elle est jeune docteur et elle a effectué sa thèse sur les Sleeping Beauties et les maisons de couture qui sont réactivées, si on peut dire. Donc c'était une très bonne thèse. Et avant, tu avais travaillé à l'école des Chartres et tu es une spécialiste de Jean Patou. Et donc c'est un sujet que tu travailles encore parce que c'est des archives qui ne se termineront jamais sans doute. Et donc aujourd'hui, tu viens nous parler plus précisément de Christian Lacroix chez Jean Patou. Merci beaucoup.
Voilà, merci Sophie pour l'introduction. Lancer mon chronomètre, sait-on jamais? C'est ça, les paris sont lancés. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de donc ma communication en français s'intitule « Jean Patou par Christian Lacroix, le chant du cygne d'une maison de haute couture ». Donc la maison Jean Patou connaît en effet un second âge d'or dans les années 80 avec l'arrivée de Christian Lacroix, avant de fermer abruptement ses portes en 1987. Alors, je vais commencer par revenir brièvement sur l'histoire de la maison Jean Patou jusqu'en 1980. Puis, j'étudierai les collections de Christian Lacroix pour Patou. Et je terminerai cette présentation en expliquant les raisons de la fermeture de la maison Patou en 1987. Et au total, on verra que le cas de Patou est à la fois unique, tant le succès de la maison est remarquable dans les années 80, et à la fois typique des changements de l'industrie de la haute couture dans les années 80, en ce qui concerne la transmission de la direction générale et artistique, le développement de collections spectaculaires, mais aussi la financiarisation et la judiciarisation de la haute couture. Donc c'est parti. Alors Jean Patou établit sa maison de haute couture en juin 1914, et elle connaît un succès retentissant donc dans les années 20, mais elle est durement frappée par la crise économique et financière de 1929. Et cette crise est aggravée au sein de la maison Patou par une collection d'inspiration médiévale en 1932, qui est un échec complet. Et donc Jean Patou se verra forcé de se défaire d'une partie de son personnel à cette époque-là, et sa maison sera mise en liquidation judiciaire en 1935. Alors sa maison ne ferme pas, elle reste ouverte et il trouve un accord avec ses créanciers en janvier 1936, mais il est épuisé et il a beaucoup de difficultés à surmonter ses épreuves financières et il décède de façon soudaine le 8 mars 1936 à l'âge de 49 ans d'une crise d'apoplexie. Et vous voyez ici, je vous ai mis donc à droite un des modèles de sa dernière collection pour le printemps-été 1936. Alors, le décès de Jean Patou ne signifie pas la fin de la maison Patou. En effet, donc, elle est transmise à une seconde génération et s'opère alors une séparation entre la direction artistique d'un côté et la direction générale ou managériale. Donc, c'est Raymond Barbas, son beau-frère, qui reprend la maison, ainsi que sa sœur Madeleine. Et ce sont eux qui vont donc s'atteler à faire survivre et revivre la maison Patou. Et d'abord, ils n'engagent aucun successeur de Jean Patou. C'est-à-dire que la création au sein de la maison Patou est faite par les ateliers. Il y a peut-être quelqu'un qui, en interne, a pris la place de Jean Patou de façon officieuse, mais cette personne n'a jamais été mentionnée dans les médias, dans la presse, par exemple. Et on a cette stratégie de communication qui fait comme si Jean Patou n'était pas décédé. C'est Jean Patou a créé ceci, Jean Patou a dit cela, etc., etc. Et cette stratégie perdure donc jusqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, jusqu'au temps que la maison engage un nouveau designer qui est Julio Lafitte en 1951. Donc Julio Lafitte est un couturier d'origine espagnole et il va rester chez Jean Patou de 1951 à 1953. À sa suite, donc, c'est Marc Bohan qui arrive chez Jean Patou donc, en 1954. Et avec Marc Bohan, se met en place une stratégie qui va durer au sein de la maison Patou, qui est l'appel à de jeunes talents. Donc, c'est-à-dire que la maison Patou va agir un peu comme une pépinière de nouveaux talents ou un incubateur, comme on dit dans la Startup Nation, et promouvoir donc des couturiers encore inconnus. Alors, il y a la fierté de dénicher des nouveaux talents, évidemment, mais il y a aussi des considérations pratiques. Les jeunes designers coûtent moins cher et ils ont peut-être un style qui est moins marqué et donc plus adaptable à une maison établie. Alors, Marc Bon en reste jusqu'en 1957. C'est Marthe Carpentier qui le remplace en 1958. Donc, elle ne reste que pour une seule collection et elle décède à ce moment-là. Pardon, ça manquait peut-être un peu de... Et elle décède tragiquement à ce moment-là. Et Raymond Barbas est alors forcé de trouver donc un successeur de façon très rapide. Et il fait appel à Karl Lagerfeld, qui était alors jeune et pratiquement inconnu. Il avait travaillé chez Balmain auparavant. Et Karl Lagerfeld a 3 semaines pour faire la première collection chez Patou. Et donc, il accepte le challenge, il fait la collection. Et la maison Patou l'appelle la ligne Karl pour témoigner la gratitude qui lui était due. Donc, Karl Lagerfeld reste de 1958 à 1963. Puis il est remplacé par Michel Goma, qui restera une décennie. Et Michel Goma va vraiment essayer de remettre Patou sur le devant de la scène pendant les années 60, avec un certain succès. Et il part donc en 1973, et il est remplacé par celui qui était son assistant, donc Angelo Tarlazzi. Angelo Tarlazzi, ça ne se passe pas forcément très bien en interne, et ce qui explique qu'il ne reste que 2 ans, jusqu'en 1976. C'est alors Roy Gonzalez qui prend la suite. Et Roy Gonzalez, donc, qui est d'origine philippine, enfin qui est philippin, sera le premier couturier asiatique à la tête d'une maison de haute couture parisienne. Et Roy Gonzalez effectue la transition entre la deuxième génération de managers et la troisième génération. Puisqu'en effet, Raymond Barbas se retire progressivement des affaires de la maison Patou et c'est son petit-fils, Jean Demouy, qui prend la relève, donc en 1980. Alors, Jean Demouy, quand il arrive à la tête de la maison Patou, il a 29 ans, il a beaucoup d'ambition pour la maison Patou, et il cherche à vraiment insuffler un nouveau dynamisme. Donc, la première chose qu'il fait, c'est de proposer de réunir la collection de haute couture, de prêt-à-porter et d'accessoires en un seul défilé, donc en dehors du calendrier traditionnel de la mode, évidemment, avec cette idée que de toute façon, la cliente de Patou, elle se fournit déjà à la fois en prêt-à-porter et en haute couture, et que du coup, elle peut avoir tout présenté à la fois dans un même défilé. Alors, la première fois qu'il le fait, donc, c'est en 1980, et cela dure jusqu'à cette façon de faire, donc cette présentation unique pour la haute couture, le prêt-à-porter et les accessoires, ça dure jusqu'à l'hiver 80-82. Mais cependant, il y a un énorme inconvénient à cette formule, qui est que ça met une pression sur le couturier qui est énorme, qui est absolument énorme. Et malheureusement, donc, Roy Gonzalez fait un burn-out et il ne peut pas finir sa dernière collection. Je n'avais pas réalisé à quel point là, c'était tragique, entre la mort, le burn-out. Et donc, encore une fois, donc, la maison Patou doit trouver un successeur à Roy Gonzalez, donc, de toute urgence, pour terminer la collection. Et c'est Christian Lacroix qui sera retenu parmi les choix de la maison. Et donc, Christian Lacroix avait étudié donc, le costume historique à l'École du Louvre pour devenir conservateur. Puis, il était entré dans le monde de la mode par le biais de son épouse, Françoise. Il avait travaillé comme consultant pour Jean-Jacques Piccard et puis il avait été aussi designer pour des marques de prêt-à-porter, dont Biblos et Junachida. Et c'est un choix assez intéressant de la part de la maison Patou, puisque Christian Lacroix n'avait jamais travaillé en haute couture avant d'entrer chez Jean Patou. Alors, sa première collection pour la maison Patou, elle est un petit peu compliquée, puisqu'il doit effectivement s'adapter aux normes en termes de nombre de designs, mais aussi de fournitures, de matériaux, de techniques, etc. Mais dès sa deuxième collection, en 1982, il commence à acquérir une certaine notoriété qui lui vaut sa première mention d'importance dans la presse de mode. Et c'est Libération qui appelle Christian Lacroix la fée Patou. Donc on le voit ici avec cette collection printemps-été 1982. Alors, je vous ai mis des images pour la plupart, voire la totalité des collections de Christian Lacroix, mais je ne vais pas les commenter toutes, évidemment. Donc ça, c'est automne-hiver 1982. Ici, on a printemps-été 1983. Automne-hiver 1983. Et on arrive... Non, pardon. Printemps-été 1984. Et on arrive à automne-hiver 1984. Alors, cette collection, elle est inspirée par le thème du cirque. Et je pense que Dilys Blum ne me contredira pas, mais ça ressemble quand même beaucoup à du Schiaparelli. Et on a... Enfin, Christian Lacroix était quelqu'un d'excessivement cultivé, avec une grande culture d'histoire de la mode, et il s'est beaucoup inspiré de Schiaparelli. Et on le voit notamment dans cette collection. Ce qui est intéressant aussi de noter avec Christian Lacroix chez Jean Patou, donc c'est son désir et son besoin d'utiliser une trame narrative pour créer ses collections. Donc chaque collection a un narratif fort, donc ici c'est le cirque. La collection suivante pour le printemps-été 1985, c'est l'Espagne. Et il s'inspire de son point de départ de la collection, en tout cas c'est la façon dont c'est vendu dans la communication, c'est une caricature de Jean Patou déguisé en toréador, par Sem. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que petit à petit, le style de Christian Lacroix s'affirme chez Jean Patou, et il mixe vraiment donc, les éléments traditionnels de la maison qu'il appelle le style Deauville, qui est quelque chose d'un peu classique, en bleu marine, beige, etc., avec des influences beaucoup plus colorées et beaucoup plus osées. Et on le voit aussi dans le style du dessin, les croquis de mode évoluent vraiment de saison en saison vers quelque chose de beaucoup plus stylisé et de beaucoup plus personnel. Donc ici, on a l'automne-hiver 1985, qui est basé sur le thème de la danse. Et on arrive à la collection de printemps-été 1986, qui s'intitule « Sous les persiennes ». Alors, ce qui est intéressant, et ce dont je voudrais parler maintenant, c'est aussi la communication de la maison Patou. Puisqu'en effet, donc, Christian Lacroix est rentré chez Patou en même temps que Jean-Jacques Picard. Et Jean-Jacques Picard était en charge de l'image de la maison Patou. Il avait travaillé auparavant au renouveau de Hermès et il va vraiment s'atteler à changer tout le dispositif de communication et de relations presse. Et par exemple, donc on le voit ici, il a des cartons d'invitation sous forme de poèmes avec un dessin et ensuite dans le press kit, dans le dossier de presse, il fait un texte qui n'est plus une description de la ligne, des couleurs, des types de vêtements, etc., mais qui se veut un peu comme un poème, décrivant des inspirations multiples, une pièce un peu littéraire. Et ça, c'est tout à fait nouveau pour la maison Patou. Donc, c'est vraiment un changement total de la façon de percevoir les collections de haute couture pour en faire quelque chose de plus spectaculaire et aussi de plus unifié. Et ce qui est intéressant donc, avec cette collection printemps-été 1986, donc, qui s'intitule « Sous les persiennes », c'est que la trame narrative, c'est une Parisienne qui est dans sa maison de campagne et qui rêve à des pays lointains. Et à des pays lointains et aussi des temps passés. Donc il y a vraiment un voyage à la fois dans le temps et dans l'espace qui est assez intéressant puisqu'il permet à Christian Lacroix de présenter une collection très éclectique, très diversifiée, tout en ayant encore ce fil narratif. Et donc on va le voir dans les créations, donc il s'inspire un peu de choses diverses et variées. Donc ici par exemple on a une robe qui est inspirée d'un vase art déco de Walter Boss, et on voit bien comment il s'approprie le motif. Il s'inspire aussi de différents artistes, donc à gauche il s'inspire de Gaudi et du Parguel. Au milieu, bon, c'est Picasso et Valoris, donc il rend hommage à la pratique de céramique de Picasso. Et à droite, c'est une réinterprétation un peu de Keith Haring et aussi d'un art beaucoup plus oui, street style, peut-être. Mais je ne sais pas si c'est vraiment le bon mot. Pardon. Et donc, cette collection du printemps-été 1986, elle vaut à Cette collection printemps-été 1986, elle vaut à Christian Lacroix le dé d'or de la couture. Donc, le dé d'or, c'est une récompense qui était attribuée chaque saison à la meilleure collection de haute couture. Et donc, c'était Pierre-Yves Guilaine, un journaliste qui était à l'origine de cette récompense. Et quand Christian Lacroix remporte le prix en 86, Pierre-Yves Guilaine dira que Christian Lacroix a gagné sa bataille d'Hernani. Puisque si Christian Lacroix avait une base très solide de clientes et des journalistes qui, dès le début, l'ont soutenu et l'ont porté à bout de bras, il y avait encore des journalistes qui, avant cette récompense-là, trouvaient que le travail de Christian Lacroix était trop caricatural, pas assez couture et à la limite du grotesque. Donc, 86, c'est un peu le moment où le consensus se produit et tout le monde est plus ou moins d'accord que Christian Lacroix est le nouveau génie. Et donc le succès de Christian Lacroix va vraiment crescendo. Il n'y a pas de fausse note. Hein, c'est depuis 82 jusqu'en 87. C'est vraiment une ascension constante. Alors, pour la collection automne-hiver 1986-1987, le thème, c'est l'Amérique. Alors, ce n'est pas l'Amérique des années 1980. C'est une Amérique rêvée, fantasmée, imaginée, avec des références très variées. Donc, il cite parmi ses références Mickey Mouse ou Banana Split, la comédie musicale de 1943. Il cite aussi les New Yorkaises des années 50 ou encore donc les Sioux et les populations natives américaines. Alors, on peut le voir d'ailleurs ici, il y a une réappropriation de certains motifs tribaux qu'on peut voir notamment avec le patchwork sur le modèle de gauche. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'à aucun moment, cela ne pose problème. Il n'y a pas du tout encore ce débat d'appropriation culturelle qui existe aujourd'hui. À l'époque, ça ne pose absolument aucun souci. Donc, cette collection, elle remporte un succès considérable et on voit donc encore une fois un certain éclectisme. Et ce qui est intéressant de noter en parallèle, c'est que, comme Marc Bohan, chez Dior, Christian Lacroix chez Patou va aussi s'inspirer des archives de la maison. Il faut savoir que la maison Patou a gardé l'ensemble de ses archives et notamment ses croquis de modèles et ses photographies. Et vraisemblablement, enfin visiblement, dans les modèles de Christian Lacroix, on voit qu'il a pu s'inspirer de créations de Jean Patou. Donc, je vous ai mis un exemple seulement, mais il y en a plein. Et donc, à gauche, vous avez un modèle de robe de Jean Patou de 1927. Et à droite, donc, vous avez la réinterprétation par Christian Lacroix pour donc, l'automne-hiver 86-87. Et ce qui fait aussi le succès de Christian Lacroix dans ces années-là, donc, c'est ces fameuses jupes boules. Et donc, les premières occurrences, c'est vers 1983. 1982-1983, et progressivement, donc, ces jupes boules prennent de l'ampleur et deviennent la marque de son succès. Donc ici, c'est vraiment la pièce peut-être la plus connue de la collection, avec un haut drapé en taffetas et une jupe vraiment excessivement bouillonnante. Donc cette collection lui vaut une récompense de la part du Fashion Council of America, en janvier 87, juste avant qu'il ne présente la collection printemps-été 1987. Alors, cette collection, encore plus si c'était possible que les collections précédentes, est vraiment louée. C'est vraiment une collection qui a énormément de succès. Et Christian Lacroix est appelé le Spoutnik de la mode, le nouveau prince de la pop couture, etc. Et donc, cette collection du printemps-été 1987, elle se base sur les Indes, Mais encore une fois, donc les Indes, les Caraïbes, mais aussi l'océan Indien, l'île Maurice, etc. Et encore une fois, donc, c'est une collection éclectique qui utilise beaucoup donc, les tissus à pois, la dentelle et les jupes bouillonnantes. Et c'est vraiment donc, c'est un carton plein, c'est-à-dire que la presse se délecte des créations de Christian Lacroix pour Patou, et il fait les premières pages de la plupart des journaux de mode et magazines. Donc ici, j'en ai mis un seul exemple, qui est le Women's Wear Daily. Mais c'est vraiment donc, un succès fabuleux. Et cette collection, elle ne sera jamais produite. Donc une semaine après la présentation, après le défilé, Christian Lacroix annonce qu'il va lancer sa propre maison de haute couture, qui sera financée par Bernard Arnault, qui est alors en train de créer LVMH. Et du coup, ce qui se passe, c'est que la maison Patou porte plainte contre Christian Lacroix pour concurrence déloyale et pour être partie au lendemain du défilé sans avoir effectué ses 3 mois de préavis. Et s'ensuit toute une série de procès contre procès qui, au bout du compte, seront gagnés par la maison Patou. Mais la maison Patou ne se remettra jamais, en quelque sorte, de cette affaire judiciaire. Il n'y aura pas de collection de haute couture après Christian Lacroix. Et donc, ce qui est intéressant avec le cas de la maison Patou, c'est qu'on voit qu'il y a une judiciarisation de la couture qui est le pendant de la financiarisation de la couture et de l'avènement des grands groupes de luxe. Donc, en effet, Bernard Arnault, quand il investit dans Christian Lacroix, il est déjà propriétaire, on l'a vu avec Sarah Skillen, de Christian Dior, et il a pour objectif, dans les 10 ans qui suivent, de devenir le premier groupe de luxe mondial. Et évidemment, l'avènement de ces grands groupes de luxe, ça signifie aussi que les petites entreprises familiales, comme la maison Patou, ont du mal à suivre et beaucoup d'entre elles disparaissent. Il restera quelques maisons familiales comme Chanel, par exemple, ou comme Hermès, mais ce sont les exceptions et non plus la règle. Alors, je voudrais terminer en parlant de ce qui s'est passé ensuite chez Jean Patou. Donc, c'est-à-dire que la maison n'a pas survécu au départ de Christian Lacroix, mais elle a essayé. Elle a essayé de revenir sur le devant de la scène. Donc il y a un couturier qui avait été embauché après Christian Lacroix qui s'appelle Jacques Pantazès. Il arrive à l'été 1987 et il y reste jusqu'en 1993. Et en fait, il dessine et il produit des collections de haute couture pour la maison Patou, mais ces collections ne sont jamais montrées au public. C'est uniquement pour les clientes fidèles de la maison Patou qui étaient clientes avant le départ de Christian Lacroix. Mais le nom de Jean Patou continue d'exister à travers donc, les accessoires. Et ce qui est assez intéressant de voir, c'est qu'à partir du moment où il n'y a plus d'identité de haute couture, la maison se tourne vers son propre passé et son héritage. Puisqu'ici, on voit donc, en 1988-89, la maison relance une boutique d'accessoires qui s'appelle le coin des Riens et qui était le nom d'une boutique lancée par Jean Patou en 1925. Donc ici, c'est le dessin original du coin des Riens en 1925. Et ici, c'est la réinterprétation version années 80. Donc la maison Patou survit au travers des accessoires, mais aussi et surtout au travers de la parfumerie et des cosmétiques. Donc c'est quelque chose dont on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais qui est vraiment le pendant de la haute couture. C'est-à-dire qu'à partir du milieu des années 70, chez Jean Patou, la parfumerie fait plus de 60% du chiffre d'affaires. Et ce chiffre va en augmentant année après année. Et donc, la maison Patou survit, donc je l'ai dit, à travers les accessoires et la parfumerie, jusqu'en 2001, où Jean Demouy vend la marque Patou à Procter & Gamble, donc au lessivier américain, qui était alors en train de constituer sa division prestige. Et Procter & Gamble achète Patou pour en faire le fer de lance, en quelque sorte, de sa communication, en montrant que Procter & Gamble est capable de développer la plus haute, le luxe, le vrai luxe, et fait de Jean Patou une marque comment dire, c'est du parfum sur mesure, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de production commerciale à grande échelle. Il y a un parfumeur qui fait un flacon par cliente, ça coûte 60 000 euros, c'est le top-notch luxury. Mais Procter & Gamble donc, se défait de sa division prestige dans les années qui suivent et abandonne l'idée d'investir le luxe pour se concentrer sur les parfums qu'on appelle de prestige, du type Lacoste, etc. Et la marque Jean Patou est vendue au groupe britannique Designer Parfum en 2011. Voilà, ça c'est la fin de l'aventure Patou. Merci.
Oui.
Alors, on ne sait pas exactement qui faisait la création. Ce qu'on sait, c'est qu'il y avait encore les ateliers, donc c'était le même personnel qui était là sous Jean Patou et qui reste avec son beau-frère. Donc, les ateliers ont créé des modèles. Après, il y a deux noms qui ont été suggérés, donc qui est le nom de Muguet Buller, qui était une dessinatrice indépendante et qui aurait pu prendre la place de Jean Patou, et également le nom de Georges Geffroy, qui était un décorateur d'intérieur, mais qui aurait pu, à un moment donné, être le nouveau couturier. Mais même si ces deux personnes ont pu assumer le rôle de couturier au sein de la maison, ce n'est pas quelque chose qui a été rendu public. L'information n'a jamais été rendue publique.
Il y avait des collections ?
Ah oui, il y avait des collections toutes les semaines, non, toutes les saisons. Et c'est la maison Patou reprend en... a de nouveau du prestige à partir de 1936-1937. Les collections ont vraiment du succès encore.
Carl, il fait la collection en 58, c'est mm-hmm. automne ou à l'automne ou...
Laissez-moi vérifier. Oui, automne-hiver 1958. L'idée, c'est plutôt que la cliente de couture, elle achète également du prêt-à-porter. Ça ne veut pas dire que la cliente prêt-à-porter va acheter de la haute couture, évidemment. Non, absolument. Mais ce que la maison Patou explique à ce moment-là, c'est que la clientèle de la haute couture va se servir plutôt en robe du soir, évidemment, en tailleur sur mesure, et réserver le prêt-à-porter pour les habits de jour, trench, etc. Après, la clientèle de haute couture aujourd'hui, c'est encore plus infime que ce que c'était à l'époque. J'ai pas de chiffres sur ce que les clientèles haute couture achètent aujourd'hui, mais on peut imaginer effectivement que la haute couture est réservée à un certain type d'événements et d'occasions. C'est tout à fait possible.
Merci. La création du prêt-à-porter date de quand dans le...
Chez Jean Patou ?
Oui.
En fait, Donc, en 1970, c'est la date de la création de la société qui produit le prêt-à-porter. Mais il n'y a pas toujours eu, mais la ligne de prêt-à-porter elle-même, elle est apparue un petit peu avant. Et ensuite, elle a une existence un peu en dents de scie. Et ça va être un sujet de contentieux énorme entre Christian Lacroix et Jean Patou, puisque Christian Lacroix souhaitait développer un prêt-à-porter de luxe de façon assez forte. Et c'est d'ailleurs ce qui va se faire avec Bernard Arnault quand il crée sa propre maison. Alors que Jean Demouy, qui était le CEO de Patou, voulait vraiment rester sur haute couture et parfumerie et pensait que le prêt-à-porter de luxe n'avait pas vraiment d'avenir. Donc c'était un sujet de contentieux pendant assez longtemps.
C'est un peu l'atmosphère à ce moment-là, dans les années 80, avec l'avènement de Mugler et tout ça. Donc, voilà, c'est ce qu'on voit. Avec Yves Saint-Laurent, il y a eu les mêmes problèmes. Mm-hmm. La haute couture a été en déclin par rapport au prêt-à-porter de luxe, non?
Je pense oui, que et puis je pense ça. Que
C'est le climat, je veux dire.
C'est le climat, et aussi, je pense que dans les interviews que Christian Lacroix a données à l'époque, il souhaitait avoir une plus grande liberté. C'était plutôt un terrain de jeu pour lui. Donc, il avait le terrain de jeu créatif de la haute couture, mais il avait aussi cette envie de jouer avec le commerce, et il avait une veine commerciale assez importante. C'est en tout cas comme ça que lui le décrit.
Justement, en continuant sur cette lancée, est-ce que les collections Patou par Lacroix se sont vendues ?
Les collections de haute couture ?
Est-ce qu'elles ont eu du succès ? Parce que vous parliez d'un succès d'estime de la profession, les récompenses, mais est-ce qu'il n'est pas arrivé chez Lacroix Patou ce qui arrivera chez Lacroix Arnaud, à savoir que les ventes sont insuffisantes et il sera lâché ?
Alors, comme je le disais, donc le chiffre d'affaires est fait en grande partie par la parfumerie, pas par la haute couture de toute façon. Après, il acquiert vraiment une clientèle nouvelle chez Jean Patou. Le problème, c'est que je n'ai pas les chiffres exacts. Donc, c'est difficile de vous répondre de façon plus précise que ça. Comme d'habitude, ces choses-là sont secrètes. Et c'est assez difficile d'y avoir accès.
Moi, j'ai une petite question par rapport au code dont vous parliez, parce qu'avec autant de créateurs sur autant de temps, est-ce qu'on arrive quand même à déterminer un style Patou, vraiment des codes maison, et qu'est-ce qu'il est advenu des archives maintenant ?
Alors, un code Patou, c'est une question qui reste fascinante et qui est sans fin, à mon avis. Ce qui est intéressant, c'est que la maison Patou a toujours mis en avant une espèce d'équilibre entre quelque chose de très classique et élégant et quelque chose de novateur. Mais c'est toujours vraiment dans la tension, dans l'équilibre entre les deux pôles. Alors, les codes Patou, oui, il y en a. Il y a certaines robes, par exemple les robes pour Suzanne Lenglen, etc. Il y a des choses qui sont devenues très célèbres et qui ont acquis un statut, comme on dit, en marketing iconique. Et il y a ce que Christian Lacroix appelle le côté Deauville. Donc effectivement, cette élégance de la côte de Deauville avec les rayures marines, etc. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve chez Patou à travers les décennies.
Mmh. Une continuité. Sportswear, maille, etc., ça n'a jamais continué après Patou.
Si, il y a eu des choses, oui.
Sur les archives, alors elles sont.
Les archives, elles sont en main privée.
Je voulais juste rajouter, peut-être aussi pour Patou, en termes de marketing de la mode et de valeur spéculative ou pas sur les collections. Patou, si c'est véritablement les robes brodées, parce qu'il avait des broderies assez fortes pour ses robes des années 20, le knitwear et tout le sportswear. Et après, en fait, ma réflexion, c'était plutôt Christian Lacroix lui-même n'est collectionné aujourd'hui que dans sa partie Patou. Enfin, c'est vraiment Christian Lacroix chez Patou qui excite les acheteurs et pas encore, en tout cas.
Pas encore Christian Lacroix.
Pas Christian Lacroix ailleurs, tout seul.
Mais ce que vous dites pour les broderies, c'est très juste. Et la maison Patou avait sa propre société de broderie. Voilà, tout à fait. Et donc, chez Patou, ça s'appelait Tissage Broderie France. Il a créé en 22 et c'était vraiment, effectivement, une dimension forte.
Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Est-ce que vous savez à partir de quand Lacroix et Bernard Arnault se sont mis à entrer en contact tous les deux ?
Alors, oui, il y a des choses. Donc, a priori, ce serait vers l'automne 1986, en novembre 1986. Et ils ont été mis en contact par une journaliste, Hébé d'Orsay.
Et je pose cette question par rapport à la communication précédente sur le fait que quand Bernard Arnault est arrivé chez Dior, qu'il a fait en sorte de mettre en avant le patrimoine. Et si j'ai bien suivi, c'est justement pour les collections 86-87 que Lacroix plonge lui-même dans les archives de la maison. Est-ce qu'on peut établir une corrélation entre cette relation qui s'est tissée avec Bernard Arnault et le début et le fait que les archives arrivent comme ça sur le devant de la scène ?
Alors, j'ai montré donc cette robe de 86-87, mais en réalité, Christian Lacroix s'inspire des archives avant, ça, avant cette date. En revanche, peut-être qu'effectivement, ça a intéressé Bernard Arnault. Ça, c'est une possibilité. Mais une corrélation, je ne pense pas qu'on puisse l'établir.
Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? Je pense qu'on va, on va conclure là. Ah, on t'a pas demandé de conclusion.
Ouais.
Non, on a mais... été, on a été chic quand même. Est-ce que tu veux dire deux mots ou...
Non, je voudrais juste remercier encore une fois Dilys Blum et Sarah Skillen. Et je pense qu'on a eu aujourd'hui des présentations qui étaient complémentaires. Et merci encore. Thank you very much. Thank you.